exprimé par son intérieur et juste autour. Hein, Aubervilliers, c'était la campagne du XVIIe siècle, mais c'est une campagne quand même proche de Paris. Et puis, elle illustre aussi autre chose. Si vous voyez au pied du monsieur, là, du Parisien, il y a un truc. Et ce truc, c'est un pot de chambre. Et pendant des siècles, le maraîchage qui approvisionnait Paris a été lui-même approvisionné par les excréments des Parisiens qui venaient enrichir la terre. Tout à l'heure, on parlait de fumier. Ben là, c'était du fumier humain, de l'engrais humain, comme on disait. Voilà. Donc ça a duré jusqu'à pratiquement la fin du 19e siècle. Et ça s'est arrêté quand, ce lien? Ça s'est arrêté, en gros, au moment où Pasteur a découvert les microbes. Et où, à ce moment-là, les urbains commençaient à s'inquiéter fortement sur le fait que leurs microbes pouvaient éventuellement leur revenir via des choux et autres produits qui venaient du maraîchage périurbain. Et donc, on a arrêté en fait ce système d'échange direct, on va dire engrais humain contre choux, ou choux contre engrais humain, hein, et on est passé à des choses beaucoup plus déconnectées entre la ville et la campagne. Alors, ça, rien de nouveau, mais le maraîchage, par exemple, autour de Paris, a été un maraîchage très actif, très productif et très innovant. Hein. Vous avez ici une photo de ce qu'on appelait les cloches à salade, hein, donc qui était un système qui avait été inventé justement autour d'Aubervilliers pour protéger les salades en les mettant sous cloche. Et c'était un maraîchage très productif, très technique. Et ce maraîchage francilien très technique, il a fortement inspiré tous les mouvements qui ont lieu depuis la fin du XXe siècle autour de l'agriculture biologique, du maraîchage biologique et de la permaculture. Ça a été un des inspirateurs forts de ces mouvements qui aujourd'hui nous reviennent, qui sont partis aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, et qui aujourd'hui reviennent en France alors que nous, on les a oubliés. Donc voilà, c'est une histoire, l'histoire du maraîchage francilien est absolument passionnante. Bon, bien sûr, cette agriculture, elle est restée urbaine, donc elle a approvisionné Paris, en particulier pendant les périodes de crise. Vous avez ici une photo de la porte de Vanves en 1944, où, à cette époque-là, comme après, dans toutes les autres périodes de guerre de par le monde, l'agriculture a servi à nourrir les gens, pendant les urbains, pendant les périodes d'occupation, pendant les périodes de disette. Et ça a continué, et ça continue encore. Ça a continué. Voilà deux exemples d'incitation à faire de l'agriculture urbaine, à produire en ville des légumes et des fruits et puis aussi d'autres choses. Vous en avez une à gauche, c'est aux États-Unis, les Jardins de la Victoire, et à droite, c'est en Russie au moment de la guerre, à Leningrad. Bon, je ne sais pas lire le russe, mais j'ai des copains qui m'ont traduit. Habitants de Leningrad, faites votre propre jardin, il vous donnera des légumes à profusion. Donc cette agriculture urbaine de crise, qui était donc là très forte pendant la dernière guerre mondiale, mais qui a encore une fois, c'est le même cas dans plein de pays actuellement, bon, ça n'évite pas, il y a eu quand même de la famine à Leningrad, mais enfin, ça a probablement limité la casse de pouvoir faire de l'agriculture sur place. Donc c'est une vieille affaire, c'est une vieille affaire, mais qui est en train de revenir, et on parle de plus en plus de nouvelles formes d'agriculture qui arrivent en ville ou à côté de la ville. Et on va les regarder un petit peu et on va en parler un petit peu de comment elles peuvent aujourd'hui nourrir la ville et quelles questions elles posent. Alors, une diversité de formes, qu'est-ce qu'on a comme forme? La première forme d'agriculture urbaine, ce n'est pas celle qui est dans la ville, c'est celle qui est à côté. C'est les fermes périurbaines, notamment les fermes maraîchères en circuit court. Ça va, circuit court Donc, en particulier, par exemple, celles qui font des AMAP, etc. Donc, toutes ces fermes maraîchères en circuit court, elles sont plutôt en train d'augmenter, on va en parler, et on est là en plein dans une forme classique d'agriculture urbaine. Ça ne s'appelait pas comme ça, maintenant on les appelle comme ça. Elles n'ont pas forcément changé, mais on les voit se multiplier. Après, il y a toute la partie non professionnelle de l'agriculture urbaine. Au niveau international, c'est considéré comme l'agriculture urbaine. C'est tout ce qu'on appelle les jardins associatifs. Alors c'est quoi ça? C'est les jardins familiaux, ex-jardins ouvriers. Dans l'histoire, les jardins ouvriers, ils sont nés de la révolution industrielle, ils sont nés dans les villes industrielles. Donc les jardins familiaux, les jardins partagés maintenant, mais aussi tous les autres jardins qu'on voit arriver, les jardins pédagogiques, les jardins d'insertion, etc. Toutes ces formes-là, c'est des formes d'agriculture urbaine. Les micro-fermes urbaines, on va en parler, ça c'est plutôt une nouveauté. Et puis des choses aussi un peu nouvelles, des serres dans les villes, des serres urbaines, ou ce qu'on appelle en bon français le indoor farming, c'est-à-dire le fait de faire de l'agriculture dans des bâtiments. Alors derrière ces cinq grandes catégories, il y a des sous-catégories, on ne va pas les passer toutes en vue, mais je voulais juste vous les signaler. Ben, sur les jardins associatifs, il y a effectivement des partagés, des familiaux, des collectifs, des insertions, des pédagogiques. Il y a toute une diversité qui est en train de se créer. Derrière les micro-fermes, on va avoir des micro-fermes productives et des micro-fermes plutôt qu'on va appeler multifonctionnelles. Et derrière, par exemple, le indoor farming, on va voir des choses pas très high-tech, plutôt des produits de cave, ce qu'on appellera comme ça, et puis des indoor farming très high-tech, et on en parlera aussi un petit peu. Ça nous concerne moins en France, mais ça existe au niveau mondial. Alors, un petit regard sur ces fermes périurbaines en circuit court. Ça, c'est pas nouveau, ça fait très longtemps que autour de toutes les villes de France en particulier, il y a du maraîchage, mais aussi pas que du maraîchage, de l'arboriculture, des volaillers, etc., qui produisent et qui vont vendre en ville. C'est pas une nouveauté. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'émergence, la grande diversité des maraîchers en circuit court. Vous en avez certains qui sont dans le couloir, là. Donc, qui sont plus ou moins proches de la ville, mais qui viennent vendre en ville, par exemple, dans des systèmes d'amas, ou d'autres systèmes de marché, ou de cueillette, etc. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, qui est très demandé en France par toutes les collectivités, qui sont vraiment en demande, et beaucoup d'habitants aussi qui sont en demande de ces formes-là. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est des fermes de plus en plus petites. On s'installe aujourd'hui en maraîchage autour des villes quand on a entre 1 et 2 hectares. C'est pendant des années, y compris dans le monde de la bio, M. Percheron parlait de la viticulture bio, mais dans le monde du maraîchage bio, s'installer en maraîchage en dehors de 3 hectares ou 3 hectares et demi, c'était considéré comme étant très risqué. Pourquoi ? Parce que derrière, il y avait tout un système de mécanisation. Il y avait tout un système, même en bio, de travail mécanique, de travail où on cherchait quand même à produire le plus possible avec le plus possible de surface par personne. Aujourd'hui, on voit des choses très différentes qui, du coup, bouleversent y compris le monde de la bio et bouleversent beaucoup le monde agricole et les conseillers agricoles qui ne savent plus trop comment conseiller. Parce qu'on voit apparaître autour des villes des petites fermes qui font un hectare et demi, absolument pas de mécanisation. Donc tout à la main, donc avec beaucoup de travail, donc forcément une petite surface, des formes différentes, des systèmes que j'appelle alternatifs, des systèmes par exemple de permaculture, où on ne va plus travailler le sol, où on va occuper le sol en permanence. Au départ, permaculture, c'est ça, ça veut dire permanent culture, la culture permanente. Bon, et on a donc des systèmes différents qui s'installent, et ça, eh ben, vous allez en voir tous les jours, s'installer autour des villes. Alors, il y a des phénomènes plus ou moins importants, autour de Paris, il y en a beaucoup, mais pas que autour de Paris, autour de Bordeaux, autour de Nantes, autour de Lyon, autour de Marseille, etc. Alors, plutôt des grandes villes, mais pas que. Je suis persuadée qu'autour de Dreux, il y en a. De ces petites fermes qui s'installent, et encore une fois, qui bouleversent un peu le monde agricole, parce qu'on n'a pas de référence. Donc il y a des gens qui s'installent, et je pense que Laureline, elle en montrera une tout à l'heure, qui s'installent sur des systèmes qui sont radicalement nouveaux, y compris, j'insiste, pour le monde de l'agriculture biologique. Donc aujourd'hui, les questions que ça pose, ces formes-là, c'est les premières questions, c'est la protection foncière. Pour s'installer en agriculture, même pour faire du maraîchage, on n'a pas besoin de beaucoup d'investissement. Il faut être quand même un peu sûr qu'on ne va pas se faire dégager par la ville dans les 5 ans qui viennent. Donc la question de la protection foncière, de la sécurité foncière, pour les agriculteurs qui s'installent en périurbain, en circuit court, c'est une question fondamentale. Et là, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a toutes les politiques des villes d'aménagement urbain, d'extension urbaine. Alors, autour de Paris, on en a des exemples très forts. On a des villes qui prennent la décision de ne pas urbaniser. Je pense à la ville de Saint-Denis, dans le 9-3. On en entend beaucoup parler de Saint-Denis pour plein de choses. Mais la ville de Saint-Denis a pris la décision de garder 5 hectares en agriculture au cœur même de Saint-Denis. C'est gonflé comme décision. Parce que, on peut très bien comprendre qu'il y a des besoins de logement, il y a des besoins d'infrastructures, tout ça, et en gros, on choisit de garder de l'agriculture plutôt que de faire des logements, des crèches, etc. Donc c'est une grosse décision. Deuxième élément, c'est, on a dit petites fermes. Tout à l'heure, je pense que le film de Laureline le montrera bien. C'est bien beau, mais beaucoup de travail manuel, c'est beaucoup de boulot. Et donc, du coup, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est vivable? Comment est-ce que les gens vont faire dans ces nouveaux systèmes d'agriculture? Et puis, accompagnement par les structures agricoles, aujourd'hui, ça pêche un peu. Alors, certains de ces agriculteurs qui s'installent sur des toutes petites fermes n'ont pas forcément vraiment besoin ou envie d'être en lien avec les chambres d'agriculture, l'agriculture, avec les, y compris les domaines de la bio, les groupements d'agriculteurs biologiques. Vous en avez aussi un qui est dans le blog, et d'autres ont envie d'y être. Et puis pour l'instant, ben voilà, c'est un petit peu, on est vraiment dans un monde un petit peu nouveau. On y reviendra si vous voulez. Deuxième grande catégorie, les jardins. Jardins associatifs. Alors, associatifs versus privés. On n'est pas dans des jardins privés, on en a des jardins qui sont en fait managés par un ensemble de gens, souvent sous forme associative, association de 1901 ou autre. Hein. Donc les familiaux, les partagés, ben ça aussi s'étend, mais alors en explosion. On a fait avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, il y a eu une note que vous pouvez trouver sur internet qui s'appelle La renaissance des jardins collectifs franciliens, et où on montre qu'en Île-de-France, je ne sais pas si vous voyez bien, tous les petits points c'est des jardins associatifs. Il y a aujourd'hui plus d'un millier de jardins, de sites de jardins associatifs, chacun ayant entre 10 et 100 personnes, familles concernées, donc ça commence à faire du monde. Hein. Et on a à peu près 900 hectares au total en Île-de-France qui sont consacrés uniquement à ces jardins collectifs. Pour mémoire, en Île-de-France toujours, il reste, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes jusqu'à une période très récente, il reste à peu près 3000 hectares de maraîchage professionnel. Donc 1000 hectares en gros de jardinage associatif, 3000 hectares de maraîchage professionnel. On commence à être sur des occupations de l'espace importantes par ces formes d'agriculture-là, hein, qui ne sont pas professionnelles, qui sont associatives, qui sont des nouvelles formes finalement d'occupation de l'espace pour les villes. Alors aujourd'hui, c'est quoi les problèmes qu'ils ont, ces jardins associatifs, qui sont très 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 demandés, il y a des listes d'attente colossales hein, dans un certain nombre de villes. Ben, là aussi, c'est la pérennité foncière. Hein. Il faut être sûr de ne pas être dégagé dans les encore 3 ans ou 5 ans qui viennent. Plus on est proche du milieu urbain dense, et plus c'est risqué. Voilà. Et on a aujourd'hui des tas de problèmes, des tas de conflits hein, entre des sites de jardins et des collectivités, parce qu'il y a des projets urbains qui se mettent sur des endroits qui en fait étaient précaires, alors que les jardiniers, ben, eux, ils ont considéré qu'ils sont là et puis qu'ils y restent. Voilà. Alors, problème aussi d'animation, parce que... Ben, vous, c'est peut-être pas le cas, mais il y a beaucoup d'urbains qui ont plus une très bonne connaissance, on va dire, du jardinage, pour pas dire qu'ils y connaissent plus rien du tout, hein, et que quand ils recommencent à se mettre dans une activité de jardinage, ils ont tout à apprendre. Quoi. Et donc, ils font un certain nombre de bêtises. Donc, les jardins familiaux partagés, souvent, il faut que ça soit animé par des animateurs techniques, et puis aussi des animateurs sociaux, parce qu'il faut arriver à faire vivre l'association. C'est pas la verne que je vais raconter, comment c'est difficile parfois de faire vivre des associations. Alors, autre problème qu'on a avec tous ces jardins associatifs, là je vous ai mis l'Île-de-France, mais c'est exactement pareil dans les autres villes françaises. On a fait il y a 3 ans un groupe de recherche qui s'est appelé J'assure, Jardin Associatif Urbain, qui a comporté 7 villes françaises. Il y avait Lille, il y avait Toulouse, il y avait Paris, il y avait Nantes, il y avait Nancy, il y avait Lyon. Voilà. Donc toutes les villes, ces villes sont confrontées à une très forte demande des urbains pour implanter des jardins, parce qu'ils ont envie de se remettre à jardiner. Sauf que ben, dans beaucoup de villes, il y a des problèmes parce que les sols ils sont contaminés. On a pas mal de sols urbains où il y a eu des garages, des trucs, des activités diverses et variées. Le pire étant les ateliers photographiques du XXe siècle, parce qu'alors là, on avait tout un tas de produits qui se retrouvent dans le sol, puis qui restent. Hein. Donc quand on est contaminé au sol, ben, parfois on peut quand même s'installer en prenant un certain nombre de précautions, ou parfois eh ben, on essaye de grimper sur les toits pour pouvoir aller quand même jardiner en pleine ville, mais plus dans un sol contaminé. Donc, on en reparlera si vous voulez. Ce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui, et c'est très développé par les bailleurs, et notamment les bailleurs sociaux, donc tous ceux qui gèrent les HLM, etc., c'est les jardins de clé d'immeuble. Parce qu'on s'est bien rendu compte au cours des dernières années que quand on est dans une cité et qu'il y a une ambiance un peu louche, et bien finalement, installer un jardin de pied d'immeuble où il va y avoir du lien social, où les mamans vont venir, où les, voilà, ben, ça va apaiser les choses. Et si vous vous rappelez des émeutes de banlieue des années 2005, ça vous dit quelque chose? Ça a bien chauffé quand même. Hein. Je me rappelle la ville de Sevran, une des villes qui avait été à feu et à sang, hein, peut-être pas à sang, mais beaucoup à feu. Le seul coin qui n'avait pas cramé à Sevran, c'était l'endroit où il y avait un jardin associatif. Parce que du coup, et ben voilà, même quand on se bagarre et que les jeunes sont très énervés, ils ne vont quand même pas aller brûler les salades de maman. Hein. Donc ces coins-là ont été des coins d'apaisement social. Et aujourd'hui, c'est vraiment considéré aujourd'hui comme vraiment quelque chose de très important dans les villes, avec tous les problèmes qu'on connaît. Donc ce sont des hauts lieux d'éducation d'éducation à l'environnement aussi pour les urbains, et puis aussi à l'alimentation, parce que dans ces jardins associatifs, on trouve alors une diversité de choses absolument considérable. On voit des légumes pousser, qu'on n'a jamais pensé que ça pourrait pousser en région parisienne, par exemple. Moi, j'ai vu des gombos, d'ailleurs, maintenant j'en fais sur toi d'AgroParisTech. Les gombos, c'est des haricots du Sénégal. Oui, ça ne pousse pas dans nos coins. Hein. Voilà, ben, si dans les jardins associatifs, ça pousse. Voilà, donc au lieu d'éducation à l'alimentation, de découverte de nouvelles choses, etc. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités considèrent que ces jardins associatifs, partagés, familiaux, pédagogiques, etc., ce sont vraiment des infrastructures de la ville. C'est-à-dire qu'on va penser les projets urbains, et notamment les projets de renouvellement urbain, en concevant d'entrée de jeu des jardins associatifs. Après, ça marche ou ça marche pas. Troisième catégorie, bah, les micro-fermes urbaines. Alors, c'est quoi ce truc-là? Bah, c'est en fait des fermes installées dans la ville, en plein dans le milieu urbain. Hein. Alors, soit au sol, soit sur les toits, etc. Et qui peuvent, et qui ont vraiment comme vocation bon, de produire surtout des légumes, pas que, mais là vous avez par exemple au milieu le paysan urbain, qui est une ferme urbaine qui est à Romainville, aussi dans le 93, et qui produit des micro-pousses. Vous savez peut-être ce que c'est les micro-pousses, donc en fait c'est entre la graine germée et la plantule, donc c'est à un stade intermédiaire, ça sert en fait de condiment qu'on peut mettre dans les salades, c'est très très riche en éléments nutritifs. C'est un peu nouveau comme production, parce que nous, on n'est pas très habitués en France à voir ça. Dans d'autres pays d'Europe, c'est beaucoup plus répandu. Et bien, ces micro-pousses, c'est parfait à faire en milieu urbain. On a besoin de beaucoup de surface. Il faut que ça soit très frais. Donc, ben, le consommateur, il est juste à côté. Donc, on gagne tout à faire ce genre de production en ville. Donc, ces micro-fermes, elles peuvent être sur de toutes petites surfaces. C'est parfois quelques centaines de mètres carrés. Donc, c'est tout petit. Et elles font de la vente, mais elles ne font pas que de la vente. Elles font souvent aussi d'autres activités. Et là, vous en avez là, à gauche, une que j'aime bien, qui s'appelle Veniverdi, et qui est en fait une petite ferme qui fait à peu près 5000 m² au total, et qui est installée dans un collège d'une zone d'éducation prioritaire. Ce n'est pas un jardin pédagogique, c'est une ferme installée dans le collège. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette ferme? Elle produit des légumes pour une épicerie solidaire du quartier, et elle produit, je dirais, de l'apaisement social aussi dans le lycée, enfin dans le collège. Quand ils se sont installés, il y a maintenant 4 ans, dans ce collège, au début, le principal du collège avait dit « Bon, bah, quand j'aurai un élève qui aura fait des bêtises, maintenant, vous savez, on n'exclut plus les élèves dans le collège, on les inclut, c'est-à-dire on leur fait faire un travail d'intérêt collectif dans le collège. » Et donc, le principal avait dit bah, « Quand il y en aura un qui fera une connerie, je vous l'envoie. » Moyennant quoi, les gamins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accumuler les bêtises, histoire de pouvoir aller travailler dans le potager avec quelqu'un qui était très sympa, avec lequel il s'amusait bien, etc. Bon, du coup, le principal a revu sa copie et a dit, bon, maintenant, ça ne sera plus un lieu d'inclusion, ça sera un lieu d'atelier pour les profs de SVT, etc. Et du coup, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des groupes de jeunes du collège qui, en roulement, viennent s'occuper du jardin. Ok ? Même si les légumes, bon, ils en consomment certains, mais ils sont plutôt destinés à une épicerie solidaire du quartier. Donc voilà ce que j'appelle autre activité, mais ça peut être d'autres activités d'un autre type. Hein. Ça peut être des choses, par exemple des ateliers de formation. C'est très demandé aujourd'hui hein, par les urbains d'apprendre à jardiner. Bon, on va apprendre à jardiner dans ces micro-fermes aussi. Donc ça, c'est en très très fort développement aujourd'hui dans les villes. Hein. Pareil, problème éventuel de contamination des sols. Donc on en voit certains qui s'installent sur les toits. Je vous ai mis là la photo d'un petit rapport qui a été fait par une de mes collègues hein, qui parlait du fonctionnement et de la durabilité de ces micro-fermes dans le milieu urbain parce que c'est vraiment pas évident quand même à faire vivre économiquement une petite exploitation comme ça, vous imaginez bien. Hein. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de questions sur quelle est la part du bénévolat dans la main-d'œuvre, hein, quelle est la part finalement des subventions des communes, si vraiment ça rend des services au niveau communal, bah, ça pourrait très bien être subventionné. Là, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Mais je vous parlais tout à l'heure de renouvellement urbain. Dans tous les quartiers en renouvellement urbain, qui sont financés par l'ANRU, l'Agence nationale de renouvellement urbain, pratiquement aujourd'hui, en tout cas en Île-de-France et dans un certain nombre d'autres régions françaises, il y a systématiquement des formes de micro-fermes urbaines qui sont installées, qui sont prévues à l'installation dès le début des renouvellements urbains. Donc c'est vraiment quelque chose qui va très certainement prendre de l'ampleur dans l'avenir. Alors on va passer sur du plus technique maintenant, des serres urbaines. Alors ça, on en voit La photo de gauche, c'est une serre en aquaponie, on va revenir sur le terme d'aquaponie, qui est aux Pays-Bas, sur le siège de Philips. Qui s'appelle Urban Farmers. Et après, vous avez là deux petites diapos. Celle du milieu, c'est un projet, c'est pas encore en cours, d'une ferme qui devrait s'installer sur une blanchisserie dans Paris pour récupérer la chaleur de la blanchisserie et faire pousser des légumes au-dessus. Et à droite, vous avez la ferme, la cité maraîchère de Romainville. Ben, elle, ça y est, elle a été, la première pierre a été posée il y a 15 jours, hein, le 14 septembre à Romainville, donc toujours en 93. Ça, c'est serre urbaine. Ce sont des serres qui sont a priori plus productives, qui sont dans des systèmes qu'on appelle les X-ponies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en hydroponie ou en aéroponie. Ça veut dire que c'est des serres où il n'y a pas de sol. On est sur des systèmes où les plantes sont sur un substrat inerte, dans de la couche d'argile, dans des billes d'argile ou dans d'autres substrats comme ça, et où on les arrose. Hydroponie, ça veut dire ça, on les arrose avec de l'eau fertilisée par des engrais chimiques. D'accord? C'est ça le système. Bon. Aéroponie, c'est la même chose, mais au lieu que ce soit arrosé, c'est brumisé, en quelque sorte. Et aquaponie, alors là, c'est un peu autre chose, c'est qu'il y a un système où il y a des poissons et des légumes, et il y a une interface entre les deux. C'est-à-dire que les déchets des poissons nourrissent les légumes. Les légumes nourrissent pas trop les poissons, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il faut après apporter de la nourriture aux poissons. Bon. Dans la serre de Romainville, c'est un autre système. On va être pas en aquaponie, on va être sur du substrat, on va être sur des cagettes où il va y avoir des déchets de la ville qui vont servir à faire pousser les légumes. Donc ça, ces systèmes de serres urbaines, c'est en train d'augmenter de manière très rapide en Europe. Pas beaucoup en France encore. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher. Les serres, on connaît, on en a partout. Hein, mais des serres en milieu urbain, le foncier est plus cher, il faut faire attention aux matériaux, l'éclairement est moins bon, il y a plein de contraintes qui font que, bon bah certes, ça peut avoir une très forte productivité, mais déjà c'est pas forcément très joli, donc il faut vraiment penser à l'insertion paysagère. Et aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus développé dans l'Europe du Nord, on peut comprendre, pour des raisons climatiques, hein, qu'en France. Mais ça commence à venir. Finalement, le seul intérêt que ça a en urbain, ces choses-là, c'est que du coup on produit dans la ville, donc il n'y a pas plus du tout de transport. Donc on va produire plein de choses qui vont pouvoir être vendues au pied même de la serre, et que parce qu'on est en ville, on peut éventuellement chauffer la serre en récupérant du chauffage urbain. On peut récupérer de l'eau de la ville. Il y a certaines formes d'économie circulaire qui peut se passer entre la serre urbaine et la ville, alors que ça ne peut pas se passer de la même façon lorsque les serres sont à la campagne. D'accord ? Et puis dernière chose, ce qu'on appelle donc en bon français le indoor farming, c'est quoi ça ? Voilà deux formes que je vais vous montrer de la production de champignons sur du marc de café. Donc ça, c'est un truc qui est dans les petits sacs que vous voyez pendus là. Il y a du marc de café récupéré des cafés parisiens, mélangé à un petit peu de paille de lin. Et puis dessus, on insémine du mycélium, enfin, donc les racines des pleurotes, et on fait pousser des pleurotes. Ça pousse très bien, ça ne demande pas beaucoup de lumière parce que c'est des produits qu'on appelle de cave. Hein. Traditionnellement, les champignons, ça poussait dans les carrières, hein. Ou ça pousse toujours d'ailleurs un petit peu. Donc on peut se mettre dans des containers, on peut se mettre dans des sous-sols, on peut se mettre dans des bâtiments. Et ce système-là, il marche remarquablement bien. On a aujourd'hui un certain nombre de fermes urbaines qui développent des champignons, mais aussi des endives, mais aussi des micro-pousses parfois, dans ces systèmes-là. Et puis de l'autre côté, alors encore plus futuriste, on a ce qu'on appelle le indoor high-tech, tout ça c'est en bon français encore, et ça veut dire qu'on fait des sortes de fermes artificielles où on contrôle tout, où c'est éclairé par des LED, où il y a de la récupération de chaleur, où il y a où tout est contrôlé, l'environnement est totalement contrôlé, c'est plus du tout naturel, hein. Et là on fait pousser plein de choses, des légumes, des feuilles, des salades, des fraises, un certain nombre de choses. Alors, ces deux systèmes-là, ils ont un développement très différent. En France, donc, on trouve pas mal de fermes de champignons, en Belgique aussi. Ça s'est beaucoup développé et ça continuera à se développer parce que c'est intéressant et que ça constitue en fait un produit qui se vend bien et qui récupère en plus les déchets de la ville, puisqu'il récupère notamment le marc de café. Pour votre information, hein, c'est 4 tonnes de marc de café par café parisien et par an. Donc, il y a de quoi faire. On va finir d'en manger. Par contre, les high-tech sont très peu développés en France. On n'en a pas beaucoup, il y a quelques essais là. Je vous mets Agricool, qui est donc un container à fraises. À dire, on a fait une étude, les Parisiens ou les autres urbains, ils voient pas tellement l'intérêt d'aller bouffer des fraises qui viennent d'un container quand on en fait des très bonnes juste à côté. Bon, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt directement en France. Par contre, ce sont des modèles qui se développent énormément dans d'autres pays, au Japon, dans les Émirats, etc. Dans tous les endroits où il y a soit des structures urbaines qui sont très grandes et où, en gros, si on veut se faire des salades fraîches, il faut les faire dans la ville, et finalement mettre un container sans ce qui est le plus simple, pas moins de place, ou dans des climats très extrêmes. Le plus extrême de ces climats, et c'est une des choses pour lesquelles je pense que ça va se développer, c'est le spatial. Vous avez entendu parler que peut-être en 2025 on va construire un village lunaire. Bon, c'est bien beau, mais il faudra les faire bouffer, ces gens. Et une façon de les faire manger, de la manière, pour qu'ils aient un peu des choses fraîches à manger et pas bibliophiliser, ça sera ces types de systèmes. Mais voyez bien que c'est des systèmes d'agriculture urbaine, certes, qui marchent dans d'autres pays du monde, mais pas forcément chez nous. En tout cas, pas forcément pour nous. Puis, il y a d'autres formes d'agriculture urbaine, ce qu'on appelle l'agriculture urbaine domestique. Aujourd'hui, les jardineries, les truffauts et autres développent, y compris des formes, par exemple, là, de petites aquaponies domestiques, ça coûte relativement cher encore, où vous pouvez produire vos poissons et vos légumes chez vous. Et puis il y a aussi tout ce qui est les sacs potagers et autres qu'on peut mettre sur ces terrasses. Bon, c'est pas nouveau non plus. Ce qui est nouveau, c'est l'intérêt économique que les jardineries ou les truffauts trouvent à ces systèmes-là. Et après, ce que vous avez aussi en agriculture urbaine, radicalement différent, c'est les élevages urbains. Alors ça, c'est aussi des choses qui sont en soi pas vraiment nouvelles. Je rappelais à mes étudiants la semaine dernière qu'à Paris, il y a eu des vaches dans Paris, faisant du lait pour les Parisiens jusqu'en 1971. Alors pour eux qui sont jeunes, qui ont 18-20 ans, ça leur paraît un temps géologique, mais non, c'est il n'y a pas très longtemps finalement. Ça s'est arrêté quand les halles ont été construites. Okay. Mais donc ça a quand même continué très longtemps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui revient comme élevage dans les villes? Eh bien, il y a des poules, les poules, parce que c'est très intéressant pour valoriser les déchets urbains en particulier, des abeilles. Aujourd'hui, il y a tellement d'abeilles à Paris que la mairie de Paris demande de ne plus en installer de ruchers. Ça commence à se faire concurrence, tellement il y en a. Et puis, les moutons. Les moutons pour faire de l'éco-pâturage, c'est-à-dire pour tondre les pelouses à la place des tondeuses électriques ou des gens des services des espaces verts. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se développe beaucoup, qui intéresse beaucoup les collectivités. Là, vous avez un troupeau de moutons à Saint-Denis. Alors, il faut voir le dimanche les gamins courir après les moutons dans les quartiers. C'est quand même hallucinant pour eux. Voilà. Donc ce sont des moutons qui servent de tondeuse à gazon écologique, mais qui servent aussi d'animation sociale. Donc ils ont aussi plusieurs fonctions. Puis bon, à la fin on les mange, mais ça on le dit pas trop parce que les gens s'attachent à ces moutons. Et voilà. Voilà, alors qu'est-ce que ça pose comme question toutes ces formes d'agriculture? À quoi ça sert sur le plan alimentaire? On est dans la ville ou à côté de la ville. Clairement, celle qui alimente le plus les villes, c'est les fermes périurbaines. Et ça le restera encore très longtemps. Il y a aussi un autre volet qui est intéressant, c'est les jardins associatifs. Dès lors qu'on a des parcelles un peu importantes, mais le un peu importante, c'est 50 mètres carrés, par exemple, on peut commencer à avoir de la production importante. Et on a fait des études là-dessus. On montre qu'il peut y avoir de l'autoproduction intéressante dans les jardins associatifs. Bien sûr, variable selon la surface, selon l'importance que le temps qui passent les gens, mais qui peut être tout à fait importante, notamment dans des situations de précarité alimentaire. Donc là, aujourd'hui, il y a tout un travail pour essayer de voir comment on peut développer ces systèmes de jardinage associatif dans des quartiers précaires particuliers. Aujourd'hui, ces questions de fonction alimentaire de l'agriculture dans la ville ou autour de la ville, c'est vraiment au centre des préoccupations de beaucoup de collectivités. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle les PAT, les projets alimentaires territoriaux. Donc ça, c'est en fait une création du ministère de l'Agriculture il y a 2 ans. Et beaucoup de villes se sont mis à vouloir faire leur projet alimentaire territorial, c'est-à-dire à se poser la question de finalement comment je m'approvisionne, comment j'approvisionne mes cantines scolaires, à partir de où, à partir de qui. Et si on peut redevenir plus local, et bien souvent c'est considéré bien, par exemple par les parents d'élèves. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la question qui est quelle forme d'agriculture on va faire pour approvisionner les villes. Alors concrètement, en France, on n'a pas beaucoup de villes qui s'orientent vers, on va mettre des serres urbaines partout, ou on va mettre des containers partout, parce que ça fait rêver pas grand monde. Hein. Même si ça peut être localement utile, ça fait rêver pas grand monde. Par contre, ce qui est intéressant dans ces développements d'agriculture urbaine, micro-fermes, jardins, voire fermes périurbaines, c'est vraiment le fait que ça reconnecte les urbains avec l'alimentation. Il y a quand même, il faut quand même se dire, c'est peut-être pas votre cas à vous, mais moi qui travaille dans Paris, même si je ne suis pas d'origine parisienne, je vois parfois arriver, enfin je vois des gens, ça fait 4 ou 5 générations qui sont sortis de l'agriculture, donc ils savent plus du tout ce que c'est, plus du tout. Donc finalement, ces formes d'agriculture en ville, ça leur sert beaucoup à se reconnecter. Une des grosses questions aujourd'hui qu'on se pose dans ces formes d'agriculture urbaine qui sont en train donc d'émerger, c'est de ne pas concurrencer l'agriculture périurbaine ou même l'agriculture tout court, c'est-à-dire de ne pas penser qu'on va faire tous les légumes en ville. Ben non, il y a encore de la place pour des agriculteurs en dehors de la ville. Et il y a bien des complémentarités organisées entre les formes d'agriculture. Par exemple, produire des champignons dans la ville, ça va choquer personne, parce que justement, c'est un bon milieu pour ça. Produire plein de légumes dans la ville, c'est peut-être plus discutable. Se pose aussi, quand on fait de l'agriculture urbaine, notamment quand c'est dans l'intra-urbain, la question de qualité. Alors, qualité des produits. Ben, qualité est plutôt bien quand on est dans des circuits très courts. Si vous produisez sur un toit ce que vous mangez dans les appartements en dessous, vous profitez de tous les éléments nutritifs, il n'y a pas de transport, il n'y a pas... Voilà. Donc on est dans de l'ultra-fraîcheur, et ça, les nutritionnistes savent que c'est effectivement très bien, hein, pour garder les vitamines, pour garder tout ça. Bon, c'est vraiment des circuits qui sont intéressants du point de vue nutritionnel. Par contre, bah, y a quand même des risques de contamination. Le milieu urbain, je l'ai dit, les sols, ils peuvent être contaminés, l'atmosphère, elle peut l'être aussi. Hein, tout à l'heure, M. Percheron disait, oui, il y a des bio qui disent, à partir du moment où vous êtes pas loin d'un agriculteur conventionnel, vous avez des risques de contamination par les produits de l'agriculteur conventionnel. Bah, y a beaucoup de gens qui s'opposent à l'agriculture urbaine, qui disent, oui, mais ça sert à quoi de faire de l'agriculture dans les villes? C'est une fausse bonne idée, ça va être tout pollué, ça va être tout dégoûtant. Bon, bah, nous, c'est notre boulot, on est des scientifiques, on a quantifié les choses. On a un toit expérimental à AgroParisTech, c'est-à-dire en plein 5e arrondissement de Paris. Ça fait 6 ans qu'on le cultive. En 6 ans, on a eu une fois un dépassement dans du persil, et on ne sait même pas pourquoi, des normes d'éléments traces métalliques dans les productions. Sinon, on est très, très en dessous des normes, et on est probablement bien meilleur que certaines formes d'agriculture, y compris périurbaines, en Ile-de-France, où il y a quand même un certain nombre de zones, quand on est à côté d'une autoroute ou quoi, où il y a des dépôts d'éléments traces métalliques et d'autres choses. Donc, ce qu'il faut en ville, quand on développe ces formes d'agriculture, c'est en tout cas prendre systématiquement des précautions, systématiquement analyser les sols, systématiquement voir ce qu'on fait, analyser l'air, etc. Mais il y a quand même tout un tas de situations où on peut le faire, même si on sait très bien qu'on ne va pas produire toute notre alimentation à partir de ces formes-là. Ça a d'autres fonctions, l'agriculture urbaine, et donc des fonctions sociales. Et ça, c'est peut-être le plus important aujourd'hui. Je vous parlais de ces urbains qui, depuis des générations, ne sont plus en lien avec l'agriculture, mais souvent, ils ne sont plus en lien entre eux non plus. Et finalement, faire un jardin en pied d'immeuble ou faire un jardin pédagogique, c'est une bonne façon de relier, de recréer des liens entre les gens. Et si l'agriculture, le jardinage peut être utile pour ça, pourquoi pas. Ça peut aussi recréer de l'emploi, parce que toutes ces formes d'agriculture urbaine, ce sont toutes des formes très peu mécanisées. Donc, a priori, il peut y avoir de l'emploi, hein, qui soit créé, de l'emploi à la fois pour la conception, mais aussi pour faire fonctionner ces fermes urbaines. Et beaucoup aujourd'hui des formes d'agriculture urbaine qui se développent sont des lieux d'accueil de travailleurs en insertion, pour les réinsérer dans le monde du travail à travers des formes d'agriculture. Notamment, c'est le cas des jardins d'insertion, des jardins type cocagne, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais beaucoup des micro-fermes, par exemple, dont je vous ai parlé, accueillent aussi des travailleurs en insertion. La question qui se pose aujourd'hui, c'est une fois qu'ils auront fini leur insertion, où est-ce qu'ils vont travailler? Est-ce qu'ils peuvent être des nouveaux employés pour des maraîchers, dans la ville ou autour de la ville? Est-ce que, voilà, quelle est leur employabilité, comme on dit, après? Donc pour l'instant, on ne sait pas trop, ce sont des phénomènes qui commencent. L'autre question importante de l'agriculture urbaine, c'est finalement à qui on s'adresse. Beaucoup disent, dans les formes d'agriculture qu'on fait en ville, c'est un peu des marchés de niche. J'ai toujours en tête, moi, une des premières formes qui se soit installées d'agriculture urbaine sur les toits des Galeries Lafayette à Paris, C'est un monsieur, d'ailleurs très, très bon technicien, qui fait des fraises. Les fraises sont vendues entre 50 et 75 euros le kilo.
Oh.
D'accord ? Bon, alors il faut avoir envie de bouffer des fraises des Galeries Lafayette. Bon, du coup, pourquoi il fait ça ? Parce que bah, il a un marché de niche. Hein, clairement, c'est alors là pour le coup plus que des bourreaux parisiens. C'est vraiment de riches personnes qui peuvent se payer des fraises à ce prix-là. Bon. La question, c'est finalement un marché de niche, oui, mais c'est quoi la taille du chien, hein ? Est-ce qu'on va faire un tout petit chien, donc vraiment produire des fraises pour un tout petit marché de gens très privilégiés, des restaurants gastronomiques, ou est-ce qu'on va essayer de produire dans ces formes d'agriculture urbaine qui ont donc l'intérêt, notamment nutritionnel, dont je dirais tout à l'heure, ben, finalement pour un peu la majorité des gens, hein ? Donc là, ça aujourd'hui, c'est vraiment des questions. Et aujourd'hui, on a des gens qui produisent pour des restaurants gastronomiques et des gens qui produisent pour les restos du cœur. On a la gamme, mais on ne sait pas aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui va pouvoir perdurer dans l'avenir. Est-ce qu'il n'y a que les gens qui vont vendre très cher à de la restauration gastronomique qui continueront à pouvoir produire dans la ville ou juste à côté ? Ou est-ce qu'on pourra aussi avoir des formes qui se développent en direction, on va dire, de populations à moindre revenu ? Une des questions qui est aujourd'hui posée à l'échelle internationale, c'est pour ça que je vous ai mis ici une référence qui est américaine, c'est est-ce que l'agriculture urbaine, c'est juste une décoration, hein, ou est-ce que vraiment ça va changer la donne ? Est-ce que ça va amener des urbains à mieux consommer des aliments ? Est-ce que ça va en amener plus à mieux consommer des aliments frais, des aliments bons pour la santé ? Ou est-ce que ça va être juste un truc qui va continuer à intéresser un petit nombre de gens ? Quand on regarde quand même le développement des AMAP depuis 20 ans, presque, 18 ans, on se dit, finalement, beaucoup de gens pensaient que ça allait être un truc de bobo qui allait pas tenir. Ben si, ça tient et ça se développe. Hein. Donc c'est pas que un truc de bobo. C'est-à-dire ça concerne quand même une grande partie de la population, même si, on peut le regretter, toute la population ne peut pas avoir forcément accès à ces produits-là. Voilà. Aujourd'hui, nous avons créé au sein d'AgroParisTech un réseau avec des ONG comme ATD Carmonde, comme le Secours catholique, le Secours populaire, qui s'appelle Agriculture urbaine et alimentation des populations vulnérables. On va essayer de travailler justement sur des formes de développement de l'agriculture dans les quartiers populaires, sous forme de micro-fermes, de jardins, ou de choses comme ça, qui puissent être adaptées aux moyens économiques des populations dans ces quartiers. Je vais accélérer un petit peu pour vous parler de fonctions environnementales. Ici, à La Verne, vous aimez bien l'environnement. Un grand nombre de ces formes d'agriculture urbaine sont vraiment ce que j'appelle des hotspots de biodiversité, c'est-à-dire des coins où la biodiversité qui est créée est considérable. Alors on va prendre deux exemples, les jardins associatifs et les maraîchers périurbains. Dans les jardins associatifs, les jardins partagés, familiaux, on a fait des études où on a compté le nombre d'espèces par mètre carré selon les tailles des parcelles. Vous voyez par exemple ici des moyennes de nombre d'espèces différentes sur des parcelles de 5 à 20 mètres carrés, en moyenne 8 espèces, plus ou moins, c'est une moyenne, dans des parcelles de 20 à 100 mètres carrés, 13 espèces, et dans des parcelles de plus de 100 mètres carrés, une vingtaine d'espèces. Alors, vu comme ça, ça ne vous dit peut-être rien, mais pensons à ce que peut être la biodiversité cultivée dans des fermes de grandes cultures, comme vous avez ici en Beauce. Quand on a, allez, on va dire 4-5 espèces différentes, du blé, de l'orge, du maïs, du colza, on a à peu près fait le tour, et on a ça sur 200 hectares, pas sur 100 mètres carrés. Okay. Donc la biodiversité cultivée dans ces jardins associatifs, elle est juste extraordinaire par rapport à ce qu'on trouve dans l'agriculture en général. Et il n'y a pas que dans les jardins associatifs. Quand on regarde ces maraîchers périurbains en circuit court, ceux qui vendent aux AMAP, aux marchés, etc., ce que l'on constate, qu'ils soient dans l'agriculture biologique ou pas, c'est que ce sont eux aussi des hotspots de biodiversité. On a aussi comptabilisé les choses, et sur moins de 10 hectares, et souvent sur moins de 5 hectares, on peut avoir entre 50 et 130 cultures différentes. Je parle d'espèces, je ne parle pas de variétés. Hein. Si on peut, et des cultures, ça peut être des tomates. Et puis dans les tomates, on peut avoir plusieurs variétés en plus. Donc une biodiversité cultivée colossale, qui n'a donc rien à voir avec l'agriculture de grande culture, et qui fait que vraiment ces exploitations-là sont aujourd'hui considérées dans tous les plans biodiversité, dans tous les plans nature des collectivités territoriales, comme étant des endroits préservés au nom de la biodiversité, plus encore qu'au nom de l'alimentation. D'accord ? Voilà. Sauf que toutes les formes d'agriculture urbaine ne sont pas aussi propices à la biodiversité. Je vous parlais de indoor farming. Une forme de indoor farming, c'est ça au Japon. Et ça, c'est un truc, un dôme, hein, ça s'appelle le Grand Pas Dôme, près de Tokyo, ça produit des laitues, point à la ligne. Hein, et 3600 laitues par jour qui traînent dans un machin où il y a de l'eau fertilisée qui passe dessous. Ça, c'est pas top en termes de biodiversité. D'accord ? Mais l'agriculture urbaine, ben, c'est l'un et c'est l'autre. Donc après, pour les collectivités, pour les villes, pour les entreprises, etc., ben, il faut choisir quelque part sa forme d'agriculture urbaine. Voilà. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup de questions scientifiques qui sont sur les quantifications de cette biodiversité. Alors bien sûr, cultiver, mais pas que cultiver. Dans les fermes maraîchères, et je pense que Laureline montrera tout à l'heure, il y a une biodiversité pas cultivée, hein, sauvage, qu'elle soit de la flore ou de la faune, qui est considérable. Et il y a aussi tout ce que nous on appelle la biodiversité invisible, c'est-à-dire celle qu'on trouve dans le sol. Y compris quand on fait des formes comme ça d'agriculture urbaine diversifiée sur des toits, où il n'y a pas un gramme de terre, où on ramène des substrats organiques, et ben au bout de 4-5 ans, on a une quantité d'insectes dans le sol, de fait c'est un sol qui s'est reconstitué, qui est colossal. Donc on peut arriver à reconstituer de la biodiversité dans la ville à travers ces formes plus techniques que simplement en plein sol. Voilà, aujourd'hui, on est sur le plan scientifique en train de créer des modèles qui relient les formes d'agriculture urbaine avec cette biodiversité. Et une chose qui est importante dans les villes, c'est de comprendre ce que j'appelle les phénomènes de piège écologique. Alors c'est quoi ça ? Eh bien, imaginez qu'on va créer une ferme, même très biodiverse, sur un toit. On est au 10e étage, il y a des abeilles qui vont arriver. Elles vont arriver, mais elles ne vont peut-être pas pouvoir repartir. C'est-à-dire qu'il y a des formes en ville qui piègent les animaux, en particulier les pollinisateurs. Elles ne vont pas forcément repartir parce que le 10e étage, ben, si on amène une ruche, les abeilles ne vont pas pouvoir descendre, remonter, c'est hors de leur portée. Donc elles sont coincées sur leur toit. Et du coup, ben, ça devient un peu un piège. Et là, aujourd'hui, il y a des questions et des recherches qui sont faites sur comment créer de la biodiversité en ville, mais sans créer ces pièges écologiques. D'accord ? Voilà. Il y a aussi dans l'agriculture urbaine des pratiques respectueuses de l'environnement, y compris dans les serres, puisque c'est dans les serres on arrive à bien contrôler le milieu. Donc on fait de la protection biologique intégrée. On lâche des coccinelles quand il y a des pucerons. C'est pas difficile du tout à contrôler, c'est même vachement plus pratique qu'en plein air. Donc il y a des formes de serres ou des formes indoor où il y a des pratiques respectueuses de l'environnement. Mais là où c'est le plus respectueux de l'environnement, c'est chez les maraîchers périurbains diversifiés, et bien sûr dans les jardins associatifs, où là on se rend compte vraiment qu'il y a une tendance très forte aujourd'hui, mais dans tout le maraîchage périurbain, à ce qu'on appelle nous l'écologisation des pratiques. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose où on avait pas mal d'intrants chimiques qui étaient apportés, à de plus en plus, même lorsqu'on n'a pas le label bio, hein, des techniques de production qui n'utilisent plus d'engrais, qui n'utilisent plus de produits phytosanitaires, qui vont mettre beaucoup de travail humain à la place du travail qui était fait préalablement par les produits phytosanitaires, par exemple. Donc on a beaucoup de producteurs aujourd'hui qui se disent proches du bio, même lorsqu'ils n'ont pas le label agribio, et finalement ils jouent sur une évolution forte des pratiques qui est souvent d'ailleurs très favorable au rendement. Et puis dans les jardins collectifs aussi, ça c'est intéressant parce que les jardins ouvriers dans le temps, je dis dans le temps il y a 25 ans, hein, quand ils étaient c'était moins fréquent qu'aujourd'hui, mais enfin il y en avait quand même, il y en a toujours eu, hein, depuis la révolution industrielle, certains de mes collègues disaient qu'il y avait des papis toxiques. C'était quoi les papis toxiques ? C'était souvent des messieurs retraités, hein, qui avaient leur jardin ouvrier avec lequel ils nourrissaient la famille et qui allaient à grands coups de Roundup et tout ça parce qu'il fallait produire. Hein. Bon, et des quantités de Roundup dans des jardins associatifs anciens, je ne vous dis pas, quand on regarde ce qu'il y a, on prend peur. Il y a quand même eu là aussi une révolution culturelle dans le monde des jardins ouvriers et des jardins partagés, qui maintenant fait que généralement jardin est naturel. Hein, et de moins en moins d'utilisation de produits phytosanitaires, parfois plus du tout, des chartes signées par-ci par-là entre les villes et ces jardins pour dire on n'utilisera plus de produits phytosanitaires. Et puis on a maintenant des gens qui disent bah, finalement il n'y a pas de mauvaises herbes, ce concept-là, c'est pas un bon concept, hein. Il n'y a que des herbes de mauvais jardin. Hein. Donc si vous avez des herbes qui ne vous plaisent pas dans les jardins, vous n'avez qu'à les arracher et pas mettre des produits dessus. C'est ça que voulait dire la dame qui était interviewée là-dessus. Je voudrais juste signaler aussi un point important, c'est que ces formes d'agriculture urbaine, c'est l'endroit où on peut faire le plus de recyclage de déchets organiques urbains. Je vous ai parlé du marc de café et de la ferme qui fait des champignons sur du marc de café. Elle n'est pas la seule. Donc, il y a aussi les drèches de brasserie qui sont maintenant de plus en plus utilisées. Il y a de plus en plus de micro-brasseries dans les zones urbaines. Donc, il y a des drèches qui sont produites. On peut les composter, on peut les co-composter, on peut les utiliser pour faire de l'agriculture à côté. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui se spécialisent dans le compostage ou la micro-méthanisation au sein même de la ville. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire des plateformes de compostage en dehors de la ville, ce qui est généralement le cas, ils sont dans la ville et avec des systèmes de micro-méthaniseurs ou de micro-composteurs, ils produisent des composts dans la ville. On a un exemple comme ça qui s'appelle les Alchimistes, qui est dans le 14e arrondissement à Paris, mais qui sont maintenant en train de faire des petits un peu partout, où vraiment ils récupèrent à vélo les déchets dans les restaurants, les déchets alimentaires, ils vont les mettre dans ce qu'ils appellent un roquette, c'est-à-dire une espèce de grande cuve qui va servir de composteur, et puis ils vont ensuite distribuer le compost aux Parisiens qui veulent faire des choses sur leur balcon ou dans leur petit jardin, ou maintenant, de plus en plus, préparer des engrais pour l'agriculture en général. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'émerger. Et les formes d'agriculture qui sont concernées par ces produits-là, c'est beaucoup les jardins associatifs, c'est beaucoup les fermes périurbaines, c'est beaucoup les micro-fermes. Voilà, je reviens sur mes poules, simplement pour vous dire qu'un couple de poules, ça fait 150 kg de déchets organiques urbains mangés par an. Donc, c'est-à-dire une proportion importante de ce que produit un ménage. Je n'ai plus les chiffres en tête de ce que produit un ménage, mais en gros, si vous avez deux poules sur votre balcon ou dans votre jardin, vous pouvez leur faire manger une grande partie des ordures ménagères que vous produisez. Ce qui intéresse fichtrement les collectivités, parce que ça fait toujours ça de moins à ramasser. Or, aujourd'hui, quand il n'y a plus beaucoup de moyens financiers dans les villes, et ben finalement, trouver des moyens de réduire la facture, ça peut être intéressant. D'où le fait que certaines villes encouragent les gens à adopter des poules. Un truc s'appelle comme ça, adopte une poule. Et nous, sur le toit d'AgroParisTech, où on a fait donc un projet de potager expérimental, et ben on teste différents déchets organiques. Je ne peux pas tout rentrer dans le détail, mais on teste le marc de café de nos amis qui font des pleurotes, on teste des composts de déchets verts, on met des traitements avec des vers de terre, sans vers de terre, etc. Et on arrive, sans un gramme de terre, à produire des quantités considérables de légumes au cours de l'année. Alors là, je vous ai mis quelques chiffres, ça ne vaut peut-être rien vous dire. 5 à 7 kg par mètre carré par an, maintenant on arrive à plutôt 10 à 15 kg. C'est 2 à 3 fois plus qu'un maraîcher professionnel en bio. C'est-à-dire que ces systèmes qui sont à base uniquement de déchets organiques peuvent, bien conduits, avec des choix de culture qui roulent tout le temps, peuvent produire beaucoup plus au mètre carré que l'agriculture traditionnelle. Et on est certes dans de l'artificialisation, parce qu'on n'est pas sur de la terre, mais on est dans quelque chose qui est complètement organique. On n'utilise que des déchets organiques. Voilà. Bon, ça j'ai passé. Voilà. Dernier élément, les autres fonctions qu'elle joue, cette agriculture urbaine. Eh bien, elle sert à retenir de l'eau. Quand vous mettez de l'agriculture sur des toits, quand vous laissez des sols dans les villes qui sont où l'eau peut s'infiltrer, eh ben vous pouvez éviter des phénomènes comme ceux qu'on a connus par exemple l'année dernière à Paris avec des débordements considérables. Alors vous pouvez éviter, bien sûr il faudrait qu'il y en ait beaucoup pour éviter ces phénomènes-là, et il faudrait qu'il y en ait non seulement dans les villes mais juste autour des villes. Il faut donc bien sûr protéger les terres urbaines autour des villes, les terres agricoles autour des villes pour qu'elles puissent retenir l'eau. Et les questions d'inondation, c'est une question qui va devenir de plus en plus problématique. Parce qu'on a imperméabilisé les sols, et qu'en imperméabilisant les sols, eh ben, on a limité la possibilité que ces sols avaient d'absorber l'eau pendant les périodes d'inondation. Dans cultures sur les toits, on a pu calculer qu'on retient entre 75 et 90% de l'eau qui tombe. C'est-à-dire que par rapport à un toit qui laisse tomber l'eau, ou par rapport à un sol imperméabilisé, on retient de l'eau d'une manière importante. Ça peut paraître comme ça un peu bizarre, mais la ville de New York, aujourd'hui, elle rémunère, elle donne de l'argent de manière importante aux fermes urbaines qui s'installent sur les toits, pas tellement parce qu'elles vont procurer de la nourriture, mais parce qu'elles retiennent de l'eau. Et quelqu'un du département de l'aménagement urbain nous disait, ben, j'ai touché quelque chose, voilà. Nous disait, ben, ça me permet de ne pas augmenter la taille des tuyaux. C'est-à-dire que je préfère financer des tats de toits, alors ils ont plus de toits plats que nous, hein, des tas de fermes sur les toits pour absorber l'eau pendant les périodes pluvieuses qui sont souvent plus torrentielles que nous, hein, plus, voilà, plutôt que de devoir changer toute la taille des tuyaux de l'infrastructure urbaine parce que ça, c'est infernal. Donc ça, ça fait partie des services importants qui vont arriver. L'autre service, c'est celui de régulation thermique. Alors ça, on en entend parler. Hein. Îlot de chaleur urbain, vous avez ici les cartes des températures de Météo France, je ne sais plus quand est-ce que c'est ça. Ça devait être au mois de juillet, comme ça. Donc plus c'est rouge, plus c'est foncé, plus c'est chaud. Donc là, vous voyez bien la ville de Paris et les départements autour, c'est très chaud. Puis plus on va vers l'extérieur, et plus c'est froid. Enfin, moins c'est chaud, plus exactement. Aujourd'hui, il y a des travaux en cours pour savoir comment les formes d'agriculture, et pas que d'agriculture, de foresterie aussi, urbaine, peuvent permettre de limiter cette chaleur urbaine. Et alors là, on est en plein dans l'actualité. Hein. Le changement climatique, l'augmentation des périodes de canicule et tout, fait qu'on va devoir vraiment réfléchir l'aménagement des villes pour limiter les îlots de chaleur urbain et pour limiter ces questions thermiques. Donc, en résumé, ces agricultures, elles rendent des tas de services à la ville. Bien sûr, elles produisent de l'alimentaire, mais elles produisent du lien social. Et elles produisent des nombreux services écosystémiques. Tout n'est pas encore totalement quantifié, totalement avéré, hein, mais il y a encore de la recherche à faire. Donc j'espère qu'on aura encore les moyens d'en faire pour pouvoir aller dans ce sens d'une meilleure quantification. Mais globalement, quand même, hormis les problèmes de risque potentiels liés à l'environnement urbain, à la pollution urbaine, on est quand même dans des formes d'agriculture qui ne peuvent que rendre des services aux villes. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de les développer dans les années qui viennent. Je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions si vous le souhaitez. Voilà. Merci.